La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.
Bonjour à tous. Alors, après avoir évoqué encore quelques réalisatrices de cinéma, scénaristes, productrices, plutôt américaines ou anglo-saxonnes du début du XXe siècle, femmes de plume, bon, pour écrire, hein, je précise, comme Mabel Ex-Justice, Marguerite Birch ou celle qui était également comédienne et actrice, comme Kathleen Williams, Clara Béranger, dites Madame William 2000, belle-fille de Mathilda Béatrice Samuel, elle-même scénariste et épouse du comédien Henri 2000, et mère du réalisateur célèbre Cécile B. 2000, hein, ici il s'agit vraiment d'une affaire de famille, sans compter ces autres femmes qui suivent un peu le même cursus dans des registres différents, comme Ouida Berger, Alice Théry, Bertha Mussi Bauer ou Madeleine Brandeis. Eh bien, après cette assez longue liste de femmes citées l'émission précédente, nous allons continuer à faire connaissance d'autres de ces dames, des Américaines bien sûr, mais aussi des étrangères, des femmes issues d'autres contrées, peut-être plus exotiques, histoire de voir comment ça se passe pour elles dans leur pays et tenter de dégager aussi, hein, au mieux, ce qu'elles ont pu apporter de constructif au cinéma en général. Alors j'évoquerai parmi toutes ces femmes encore une Américaine nommée Lillian Gish, qui est née aux États-Unis en 1893, était l'une des actrices les plus renommées de l'époque dans le milieu du cinéma de muet avec Mary Pickford. Alors il est vrai qu'elle était surtout actrice, hein, a débuté comme comédienne de théâtre pour ensuite se tourner vers le cinéma muet du début du siècle, puis par la suite vers le cinéma parlant. Alors de son passage dans les studios, elle laissera une empreinte marquante, déjà à ses débuts, surtout dans des films muets, réalisés par l'un des réalisateurs les plus en vue, David Griffith, dans des films, par exemple, intitulés Le Lys brisé de 1919, qui est un film pathétique où elle incarne une victime de la brutalité humaine, hein, masculine. À travers l'orage de 1920 ou Les deux orphelines de 1921, pour ne citer que ceci. Et ensuite, elle enchaînera sur d'autres rôles qui valoriseront ses talents de comédienne, comme avec des réalisateurs tels qu'Henry King ou avec un Suédois nommé Victor Sjöström, par exemple dans ce film de 1928 intitulé Le vent. Et elle tournera aussi avec la célèbre Metro-Goldwyn-Mayer dans des films de King Vidor, comme dans celui intitulé La Bohème. Or, j'ai cru également comprendre que ses rapports avec la MGM n'étaient pas des meilleurs et qu'elle dut subir plus ou moins des critiques désagréables, voire humiliantes, déjà à 30 ans sur son âge et son apparence, dans un contexte pas très heureux de compétitivité. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, quoi qu'il en soit, elle délaissera quelque peu le cinéma pour se tourner vers ses premières amours, le théâtre, abordé lorsqu'elle était toute jeune et essayer d'échapper avec sa sœur Dorothy à une vie d'indigence. Mais elle reviendra cependant au cinéma avec plus de maturité et à l'heure du parlant pour y interpréter des seconds rôles qu'elle marquera de sa présence et de son jeu particulier. Et ce sera le cas pour le film intitulé « La nuit du chasseur », réalisé en 1956 par Charles Laughton, film marquant également par son intensité. À cette époque, elle a 63 ans et elle interprète une maîtresse de maison peu commode, plutôt à poigne, mais qui... sous un aspect un peu revêche, cache un cœur et recueille bien généreusement sous son aile les enfants perdus et abandonnés et qui va, pour défendre ses deux nouveaux protégés en fuite et en danger de mort, s'opposait à Robert Mitchum, qui lui incarne un dangereux prédateur sous les traits d'un charmant pasteur, lequel se révélera un personnage peu reluisant, un inquiétant psychopathe vénal, manipulateur et meurtrier. Et comme le loup déguisé en agneau, lâché dans la bergerie, celui-ci séduira par vénalité la maman des enfants, une veuve éplorée sous l'œil interrogatif et critique de l'aîné des deux enfants qui, comprenant le danger, devra se cacher avec sa sœur pour éviter le pire. D'ailleurs, l'ambiance de ce film, que j'ai vu deux fois, est étrange et inquiétant. Et je vois encore dans ma mémoire la fuite de ces enfants la nuit, couchés dans une barque et glissant sur l'onde silencieuse au clair de lune, et la silhouette angoissante du prédateur se détachant sur fond d'horizon, chantant sa chanson préférée qui le précède comme un signal lugubre, et le tout s'orchestrant harmonieusement pour créer l'angoisse. Alors c'est un film qui, pour ma part, m'a prise dès le début et qui ne m'a plus lâché jusqu'à la dernière image. Et en effet, j'ai pu constater de visu les qualités d'interprète, entre autres, de Lillian Gish. Enfin, quoi qu'il en soit, elle a énormément tourné, reste l'une des actrices les plus complètes, car capable d'interpréter toutes sortes de films. Elle se produit dans tous les registres, que ce soit des comédies, des drames, des films historiques, des westerns, au cinéma muet comme au cinéma parlant, et ce, à des âges très variables. Mais le cinéma muet restera l'une des raisons majeures pour que Lillian Gish déploie son énergie et sa promotion, et à le promouvoir et à conserver en tant ce patrimoine cinématographique. Si bien qu'elle s'arrangera pour organiser sur le sujet de nombreuses conférences et tournées avec projection. Alors, il est dit qu'elle était également scénariste et réalisatrice, ce qui est probable car c'était le cas de bien des femmes au début du XXe siècle. Mais je dois quand même avouer que dans mes recherches, elle semble plus reconnue et appréciée en tant que comédienne et actrice que comme scénariste et réalisatrice, car elle conférait à ses personnages une aura particulière. Alors, j'ai essayé tant que faire se peut de recouper mes informations de manière à me rapprocher au plus près de la vérité, on va dire historique, mais malgré mes recherches, je n'ai pas réussi, avec mes outils, à trouver une trace probante, suffisamment convaincante, d'une Lillian Gish scénariste et réalisatrice, quoique une comédie dramatique intitulée « La femme qui changea son mari », et non pas de mari, aurait été réalisée par Lillian Gish avec sa sœur Dorothée comme interprète principale. Mais son nom méritait quand même d'être cité en tant qu'ambassadrice du cinéma muet, comédienne célèbre et accomplie, car je crois qu'elle donnait aux autres le meilleur d'elle-même grâce à sa conscience professionnelle et à son travail. Alors, j'ai quand même relevé une citation où elle s'exprime sur son travail de comédienne et je vais vous la lire. Alors, je cite « Nos rôles doivent concorder avec ce que nous sommes réellement dans la vie, car l'écran nous montre tel que nous sommes. » Alors, c'est un point de vue, mais qui n'est peut-être pas partagé avec tous les comédiens. Par contre, bon, ce que j'ai lu d'elle également, c'est qu'elle s'impliquait à fond dans ses rôles, c'est-à-dire qu'elle se documentait le plus possible sur la nature du personnage à interpréter, sur le milieu dans lequel ce personnage évoluait. Et pour ce faire, elle n'hésitait pas à se mêler à divers groupes sociaux pour les besoins du rôle. Et enfin, c'est une personne qui vivra très longtemps puisqu'elle s'éteindra en 1993 à l'âge de 99 ans. Alors, puisque je vous ai parlé assez longuement de ce film intitulé « La nuit du chasseur », pourquoi ne pas vous faire écouter un passage, celui quand le monstre poursuit les enfants, pique une crise en échouant sa prédation avec les enfants qui fuient en dérivant solitaire sur une barque dans la nuit étoilée et que la petite fille chante.
cover.
Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away into the sky, into the
Alors les femmes se suivent, à la fois elles se ressemblent et par d'autres côtés ne se ressemblent pas car elles amènent chacune leur singularité et leur spécificité. Alors je dois dire que j'aimerais avancer un peu dans le temps même si c'est difficile pour moi car à chaque fois que j'essaye, j'en trouve une sur mon chemin et je me dis qu'elle a aussi sa place dans ma présentation, si bien que je serais presque tentée de fermer les yeux pour pouvoir passer à une autre époque, mais j'y renonce, car je sais que je ressentirais un sentiment de trahison désagréable si je les négligeais. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne pourrais toutes les nommer, et j'en oublierai certainement, car elles sont vraiment nombreuses à cette période, à écrire, concevoir, produire, réaliser et jouer pour le cinéma. Et c'est ce qu'il faut retenir. Eh bien, voici une encore qui se présente à nous et se nomme Barbara Lamar. Elle était actrice, danseuse, scénariste et même poétesse de surcroît. C'est aussi une Américaine née en 1896, Reatha Watson, de son vrai nom, et qui a débuté au cinéma comme auteur, même si auparavant, elle avait déjà brûlé les planches, toute jeune déjà, puisqu'elle a commencé enfant, et ensuite, en grandissant, elle s'est produite comme danseuse sur les scènes de Los Angeles. Alors, elle sera repérée par l'acteur célèbre des années 20, Douglas Fairbanks, qui lui offrira, entre autres, le rôle de Milady, la séductrice sulfureuse dans Les Trois Mousquetaires. Bon, il est certainement inutile de vous rappeler que ce roman a été écrit par l'écrivain français Alexandre Dumas, au XIXe siècle, et qu'il est le premier tome d'une trilogie qui d'ailleurs avait enchanté il y a bien trop longtemps mon âme enfantine et que je conseille à tout adolescent en mal d'idéal de loyauté et d'amitié, se dit en passant. Enfin, pour en revenir à Barbara Lamar, Elle tournera dans des films muets, bien évidemment, et interprétera surtout, grâce à sa beauté, des rôles de séductrice et de femme fatale. Mais malheureusement, elle décédera aussi très jeune, à l'âge de 29 ans, à ce qu'il paraît de maladie, de tuberculose apparemment, aggravée par un terrain fragilisé, dû à une vie un peu dissolue, hein, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, je me permets de dire qu'avec ses amants et ses cinq maris, hein, elle n'avait pas perdu de temps, et avouait elle-même aimer les hommes comme les roses, hein, ce sont ses mots, à la douzaine, hein, s'il vous plaît. Et c'était ce que nous appellerions une femme passionnée, une amoureuse, qui prétendait d'ailleurs vivre pour aimer. Et la poésie qu'elle pratiquait entre deux pauses sur les plateaux et en dehors du cinéma était un moyen pour elle d'exprimer ses émotions, ses sentiments, notamment amoureux. Alors vous pensez bien que j'ai cherché sa poésie, hein, j'ai trouvé. Malheureusement, les traductions ne m'encouragent pas à vous en réciter quelques vers. Le mieux, c'est de pouvoir, à mon avis, se confronter à la langue d'origine. Bon, ce n'est pas mon cas, ce qui me frustre à plus d'un titre. En tout cas, les poèmes que j'ai lus, sur Internet d'ailleurs, mettent en avant sa nature amoureuse. Et en tant que scénariste, elle a quelques films à son actif. Alors, je crois qu'ils sont au nombre de 6. Son premier scénario s'intitulait « Flame of Youth »,« Flamme de la jeunesse », qui serait, paraît-il, inspiré de sa propre vie. Alors, le titre, en tout cas, laisse entrevoir la teneur. Et vous pouvez aussi trouver Barbara Lamar sur YouTube. Vous découvrirez une jolie brune aux grands yeux étonnés avec une petite bouche en cœur. Et elle a d'ailleurs laissé son nom en souvenir par l'intermédiaire d'une autre actrice, car c'est un producteur bien connu, Louis B. Meyer, grand admirateur de Barbara Lamar, qui proposera le nom de Lamar à cette autre actrice que je vous ai présentée à la Voix des Arts. Une très belle actrice d'ailleurs, doublée d'une scientifique, trop belle pour être prise au sérieux, mais qui fut l'inventrice à l'origine du Wi-Fi et que nous connaissons sous le nom d'Edine Lamar. Donc voilà pour la petite histoire. Alors des femmes, vous en trouverez dans tous les secteurs liés au cinéma. Je vous ai cité des écrivaines qui écrivaient pour des journaux et se sont tournées vers le cinéma à ces époques et se sont lancées dans l'écriture de scénarios. Je vous ai parlé de Ouida Bergère, de Clara Béranger, mais il y en a d'autres entourant les producteurs réalisateurs en vue, comme les 2000, notamment Cécile B. 2000. Et c'est le cas de Jenny McPherson, qui elle est née en 1888 et fut la scénariste exclusive du réalisateur Cécile B. 2000. Alors également Bella Marie Dix, née en 1876, écrivaine et donc scénariste avec William 2000 pour la Paramount notamment, sans compter Marion Fairfax, Eve Unsell ou Julia Crawford. Bref, tant de femmes qui ont laissé leur empreinte dans le monde cinématographique, même si leur nom n'apparaît pas en tête d'affiche. Alors, il y eut également des critiques de cinéma, notamment l'une d'elles née en 1895 et qui a participé en outre à promouvoir le cinéma. Et c'est ce qui est intéressant, car grâce à elle, des archives cinématographiques ont été conservées, exposées, commentées et proposées au public. Et de plus, elle a écrit quelques livres sur le sujet. Et justement, comme elle avait été promue conservatrice du Musée d'art moderne de New York, elle en avait profité pour créer en 1932 un département d'études cinématographiques où elle proposait une bibliothèque de livres sur le cinéma, bref, une cinémathèque avec notamment une collection d'archives de films rares. Alors Iris Barry, hein, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était donc journaliste et écrivaine, critique, le tout en faveur du cinéma, et de surcroît fut cofondatrice avec d'autres dramaturges, écrivains, personnalités du cinéma, de la London Film Society en 1925, laquelle fut la première société cinématographique britannique dont la mission était de proposer un large panel de productions du monde entier et notamment des films interdits par la censure. Et peu à peu, cette société a organisé des événements avec des expositions, des conférences autour du cinéma. Alors elle sera élue présidente de la Fédération internationale des archives cinématographiques en 1946 et recevra également la reconnaissance du cinéma français pour son aide à la préservation des archives cinématographiques pendant la guerre, il me semble, en étant élue chevalier de la Légion d'honneur. Alors nous allons terminer l'émission sur ces femmes américaines ou anglo-saxonnes, bon, sans oublier les Françaises, hein, celles qui sont nées fin du XIXe siècle et qui ont participé à construire les fondations pour que le cinéma prenne son envol, avec une réalisatrice qui fut également, comme bien d'autres, monteuse, scénariste, avant de passer à la production et en fin de carrière à la pédagogie. Il s'agit de Dorothy Arzner, qui est née en 1897. Alors apparemment, et d'après diverses sources, elle aurait été la seule femme de 1930 à 1940 à diriger et tourner les longs métrages dans les studios d'Hollywood. Alors à l'origine, rien ne semblait la disposer à embrasser une carrière dans le cinéma, puisqu'elle s'était orientée vers la médecine. Sauf que, grâce au restaurant de ses parents, situé à Hollywood, elle était en contact régulier avec les réalisateurs et acteurs de cinéma. Alors, est-ce à fréquenter ce milieu qui fait qu'en cours de cursus, elle abandonna ses études de médecine pour le cinéma ? Bon, cela, je ne pourrais le dire, mais quoi qu'il en soit, elle présenta sa candidature à la société Players Lasky Corporation, qui deviendra la Paramount Pictures, et sera employée, mais tout d'abord comme dactylo. Bon, apparemment, elle donnera satisfaction, et certainement emploiera-t-elle son énergie à se rapprocher des studios et à gravir les échelons, car de monteuse, elle passera scénariste jusqu'à demander à diriger un premier long métrage, ce qui lui sera accordé en 1927 pour un film intitulé Fashion for Women, en français Mode pour Femmes, et ce sera en 1929, c'est-à-dire 2 ans plus tard, qu'elle réalisera le premier film parlant du studio intitulé The White Party, que l'on traduit en français par Les Endiablés, une histoire d'amour qui met en valeur une actrice du muet nommée Clara Bow. Alors, dotée sans doute de persévérance, de curiosité et de conscience professionnelle, elle finit par connaître toutes les facettes des différentes fonctions qu'elle remplissait, ce qui peut expliquer pourquoi elle traça son chemin avec succès. Alors, il semblerait que c'était une femme qui avait conscience de sa valeur, tout en sachant évoluer dans les différents cadres imposés par la direction, mais néanmoins, elle avait une façon bien à elle de traiter un sujet, car elle savait apporter une touche personnelle et plutôt novatrice. Et de plus, elle portait également un regard particulier sur les femmes en exploitant des aspects féminins moins conventionnels ou habituels. Et ce qui permit aux actrices d'exprimer une palette plus nuancée de leur personnalité, car Dorothy Arzner savait utiliser, et aussi pour des seconds rôles, les spécificités, la singularité, la personnalité de ces actrices pour proposer des portraits de femmes complexes, nuancées, intéressants ou insolites. Et le matériau, entre guillemets, féminin, était bien exploité pour les besoins de la cause. Et grâce à elle, bien des actrices révéleront leur talent et certaines deviendront des vedettes confirmées, comme Catherine Hepburn, par exemple. Alors, elle était lesbienne, ne s'en cachait même pas, si bien que tout le monde savait qu'elle vivait avec une femme et qu'elle vécut avec la même personne une 30aine d'années. Et celle-ci se nommait Marion Morgan. Elle écrivait et a même écrit deux films pour Mae West, l'actrice que j'avais présentée une émission précédente. D'autre part, il a été dit aussi qu'elle avait eu la chance de bénéficier d'une indépendance financière qu'elle devait à son héritage parental, ce qui ne l'obligeait pas non plus à obéir à des compromissions faciles pour devoir gagner sa vie. Si bien qu'elle a pu, avec une certaine liberté, suivre son chemin. Et apparemment, comme elle avait une bonne connaissance de son travail, elle était sollicitée et avait fini par être respectée et appréciée par tous pour ses qualités professionnelles. Or, d'après ce que j'ai vu, elle aurait tourné une vingtaine de films en tant que réalisatrice. Et je vous ai cité deux de ses films tournés à ses débuts en 1927 et 1929. Je vais vous en présenter trois autres. En 1933, elle tournera La Falaine d'Argent avec Catherine Hepburn. Alors, c'est encore une histoire d'amour, mais avec la personnalité vigoureuse, mais néanmoins attachante de Catherine Hepburn, qui endossera un rôle de femme indépendante, pilote d'avion, et que l'on verra, chose insolite à cette époque, vêtue d'un pantalon. Or, la Paramount, elle réalisera le film « Dance Girl Dance », qui est devenu un film culte, notamment lorsque l'actrice Maureen O'Hara, qui interprète une danseuse, harangue le public pour tenir des propos féministes. Et je citerai encore le film intitulé « L'obsession de Madame Craig », tourné en 1936, qui présente un portrait de femme avec une conception du mariage bien particulière. Et c'est aussi Dorothy Arzner qui aura l'idée de créer les micro-perches, ces longues tiges avec un micro au bout qu'un assistant déplace certainement pour apporter davantage de mobilité aux acteurs et donc de naturel et ainsi faciliter leur jeu et certainement optimiser les prises de vue. Alors elle rejoindra aussi l'organisation professionnelle des réalisateurs de cinéma en 1938, lequel a été créé en 1936 pour défendre les intérêts de ses membres. Elle travaillera par la suite pour la télévision et terminera sa carrière comme enseignante à l'Université de Californie à Los Angeles pour transmettre son savoir sur la réalisation et l'écriture de scénarios et finira sa vie en 1979 à l'âge de 82 ans. Eh bien, nous arrivons au bout de cette émission. La prochaine fois, je vous emmène ailleurs, sous d'autres cieux, dans d'autres pays européens ou un peu plus exotiques, rencontrer encore et toujours ces femmes de cinéma nées fin 19e siècle ou tout début du 20e. Comment ont-elles pu s'exprimer dans le cadre qui était le leur et qu'ont-elles fait? Alors, ce sont les bonnes questions et j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Et en attendant, eh bien, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.